nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Marcel Boiteux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce quatrième et dernier jour. Alors, vous êtes normalien, agrégé de mathématiques et diplômé de sciences politiques. Vous commencez votre carrière au CNRS en 1947 avant d'entrer chez EDF. L'ascension au sein d'Électricité de France est fulgurante puisque vous en devenez le directeur général en 1967 et jusqu'en 1978. La recherche tient également une part importante de votre vie puisque vous présidez divers organismes tels que l'Institut Pasteur, Biosphère, la Fondation des Hôpitaux de Paris, et encore plein d'autres, je le dis de manière un peu pêle-mêle. Vous êtes actuellement président d'honneur d'EDF et membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1992. Vous avez donc pas mal d'activités annexes et pas n'importe lesquelles, et elles tiennent une part importante de votre vie. Puisque lorsque vous dirigez EDF, vous le dites vous-même, vous consacrez un quart de votre temps à d'autres activités.
Effectivement, je n'ai jamais voulu me laisser enfermer dans une seule activité. Déjà, le fait que, étant entré à l'école normale pour faire des sciences, je me suis inscrit en même temps au Sciences Po, est un signe que j'aimais pas faire uniquement une seule chose. J'aimais toujours en faire plusieurs. Et effectivement, au cours de ma carrière à EDF, j'ai fait autre chose. J'ai présidé l'Economic Society, on l'a évoqué, je crois, dans une autre, mais j'ai présidé aussi deux organismes de recherche opérationnelle, qui à l'époque étaient très en vogue.
Mais vous aviez assez de temps pour tout faire? Vous étiez un président à temps partiel.
Non. J'ai toujours pratiqué les 35 heures, mais 35 heures de sommeil. Et il y a effectivement des époques où j'ai travaillé 100 heures par semaine. Quand en même temps, j'avais mon métier EDF, j'avais 5 commissions au commissariat au plan, dont une que je présidais. Il y avait le comité des sages. Il y a un moment où j'étais un peu surmené quand même. Mais en même temps, c'est très enrichissant. C'est quand on fait uniquement son métier étroitement, ça ne permet pas d'avoir la hauteur de vue nécessaire pour pouvoir mener une politique. Et donc, je ne regrette pas du tout, même si j'étais quelquefois un peu surmené, même si j'ai dû sous-traiter l'élevage de mes enfants à mon épouse.
L'élevage?
Et l'éducation.
Ah. C'est une manière de voir les choses, mais...
Non, mais ça veut dire qu'il y a tout, enfin, c'est d'occuper de tout.
Oui. Et donc, vous avez commencé par... quelles étaient vos premières activités annexes quand vous avez...
Les premières activités annexes, c'était l'enseignement de l'économie à Supélec et au Pont des Chaussées ensuite. Et c'était l'animation...
À chaque fois, des enseignements, enfin des établissements de prestige. Hein.
Tout à fait. Et accessoirement, l'animation de sociétés savantes, genre donc SOFRO, c'est la Société Française de Recherche Opérationnelle, ou l'AFIRO, agence française d'informatique, à l'époque, tout ça était naissant. Enfin. Donc, j'ai eu ce genre d'activité. Et puis...
Vous avez présidé le comité des sages?
J'ai présidé le comité des sages, la recherche scientifique, à une époque où la gestion de la recherche française était quand même plus légère qu'aujourd'hui. Nous étions 12 sages qui préparions le budget général de la recherche en France. Il y avait 80 personnes à la délégation à la recherche qui animaient et passaient des contrats avec les entreprises, et puis c'est tout. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'obsession d'éviter les redondances. Vous voyez, les redondances, dans la vie économique, ça s'appelle la concurrence. Et dans l'administration, ça s'appelle des redondances. C'est une erreur. C'est pas scandaleux d'avoir deux équipes qui travaillent sur le même sujet, à condition qu'il n'y ait pas 4 ou 5. Puis il y a un moment où ils deviennent complémentaires. Que l'on soit donc, la peur des redondances faisait que tout ça, maintenant, est tout très organisé, d'avoir 2000 personnes. Là, on épais vraiment 12 sages et 80 personnes. Et cette expérience m'a été, je veux dire, très profitable. J'ai rencontré des chercheurs que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai même rencontré Pompidou. Car en tant que président, j'avais à présenter les travaux du comité 2 fois par an en comité interministériel, qui était présidé par M. Pompidou lui-même, lequel tenait à voir le président des sages 2 jours avant pour qu'on en parle un peu et préparer la séance. Donc j'ai rencontré M. Pompidou 4 fois, et je veux dire que nous avons fait connaissance, à une petite complicité normalienne quand même, et je pense que s'il n'avait pas connu, il n'aurait peut-être pas accepté la proposition de Pierre Massé de me nommer directeur général à un âge tendre. Ça a été probablement l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu être nommé aussi jeune. Et puis, pendant un certain temps, je me suis abstenu d'activités trop nombreuses. Après avoir été nommé patron d'EDF, j'ai eu quelques activités plutôt dans le métier. J'ai présidé le Centre européen d'entreprise publique, par exemple. C'est un rapport avec l'électricité. J'ai aussi été au conseil consultatif de la Banque de France, mais c'était pour prendre le secteur de l'énergie. Donc c'était en liaison.
J'étais quand même toujours un rapport avec EDF.
Voilà, un peu moins dispersé. Et puis, le temps passant, j'ai recommencé à me disperser un peu, puisqu'on m'a demandé de présider l'Institut des hautes études scientifiques.
À chaque fois, on vient vous voir. C'est pas vous, forcément, qui êtes demandeur. On vient vous voir.
On vient.
Et vous acceptez.
Ben oui, ça me fait penser que lorsque j'ai dit que j'ai été membre de 5 commissions au commissariat au plan d'études, je me suis dit, mais pourquoi vous... Ben j'ai dit, écoutez, j'ai rien demandé. Moi, on me demandait, je suis absolument que vous veniez. Donc, j'ai fini par accepter en résistant. Ben, passons donc, pendant ma période directeur général d'EDF, j'ai peu d'activités qui ne soient pas de mon métier. Puis après, de nouveau, je me diversifie et je préside l'Institut des études scientifiques.
Donc,
IHES, qui n'est pas très connu, mais enfin, on connaît, tout le monde connaît Princeton, où était Einstein, qui est un espèce de campus où vivent quelques savants en toute liberté. Eh bien, l'IHES à Gif-sur-Yvette, c'est le Princeton européen. C'est soutenu par la France, mais aussi par le Max Planck Institut allemand, par je ne sais quel institut anglais. Et là, de mon temps, il y avait 5 savants éminents choisis avec soin qui n'ont aucune obligation. Alors, s'ils veulent donner
aucune obligation, vous voulez dire sur leurs travaux?
Aucune obligation de recevoir des élèves, etc. Bien sûr, comme ils aiment rayonner, ils ont des gens qui viennent les voir. Enfin, ils n'ont pas d'obligation particulière. C'est une exception aux règles de la direction nationale qui est très difficile à défendre de temps en temps parce qu'ils sont bien mieux payés que les gens du CNRS. C'est une sélection extrême. Alors je dois dire que si j'étais nommé là, c'est parce qu'on pensait que je comprendrais un petit peu de quoi il s'agissait en tant que scientifique et qu'en même temps, en tant que patron d'EDF, j'avais des relations qui permettaient de trouver de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent dans ces machins-là. Mais je crois que finalement, le meilleur service que j'ai rendu à l'HES après 12 ou 13 ans de présidence, c'est de trouver un successeur tout à fait remarquable.
Qui
lui a trouvé de l'argent plus facilement.
Qui était ?
Son nom ne me revient pas pour l'instant, mais ça va revenir. Il a fait l'ICS, le génie maritime, et il est inspecteur des finances, ce qui donne une bonne ouverture.
Et à ce moment-là, quand vous parlez donc de cette époque de l'Institut des hautes études scientifiques, c'était donc quelle période? On est dans les années 70?
C'est plus tard. C'est plus tard. J'ai dû commencer, j'étais président déjà d'EDF, qui en principe est un poste moins astreignant. C'est amusant, le patron EDF, c'était le directeur général autrefois, et pas le président. Ça étonne un peu les gens. Et la raison est très simple, c'est que le conseil d'administration délègue au directeur général toutes les choses qui ne sont pas vraiment très importantes. Très important, le conseil le garde. Mais comme l'EDF était à l'époque la plus grosse entreprise de France, les choses importantes sont tellement importantes qu'elles sont traitées par le gouvernement et donc par les finances. Et donc le directeur général va négocier avec les finances les choses très importantes. Moyennant quoi, le président n'a rien à faire puisque on lui a enlevé tout. Et donc, alors moi, quand j'ai eu de l'ouvrier comme président, je l'ai tenu au courant. Enfin, on a travaillé un peu la main dans la main, mais en fait, c'était moi le patron. Mais c'est un détail. Genre, en président, donc j'avais moins de choses à faire et donc j'ai pu me diversifier un peu plus. Alors, l'IHES, j'ai donc commencé, je pense, en 83 ou 84, alors que j'étais président qu'à 87. Puis ensuite, il y a eu l'Institut Pasteur. J'avais été déjà administrateur dans les années précédentes.
Là, on a passé plusieurs choses. Là, on arrive à l'Institut Pasteur, mais vous avez également présidé d'autres
organismes.
J'ai
pas tout présidé, mais j'étais membre du conseil. J'ai été membre du conseil de l'ENA, j'étais membre du conseil du CNES, le spatial. J'étais membre du conseil de l'économie supérieure. Mais là, je n'étais que membre. Tant que j'étais patron EDF, je n'étais que membre. J'avais pas de présidence. Puis après, j'ai repris les présidences. Et donc, on arrive plutôt vers les années 80. Et là, je reprends de nouveau des présidences actives, donc l'IHES, puis plus tard l'Institut Pasteur, et qui est une aventure nouvelle pour moi. Je rencontre des milieux tout à fait différents. Je connais un peu le jargon aussi. ne serait-ce qu'à cause de mes parents, qui étaient naturalistes. Mais c'est un milieu tout à fait différent et c'est une expérience que je ne regrette pas d'avoir faite.
Mais comment vous avez été, vous, amené à être nommé président de l'Institut Pasteur, puisque vous n'aviez pas une carrière, finalement, de biologiste, au départ?
Non, mais il faut bien voir que l'Institut Pasteur, ce qu'on demande, c'est quelqu'un qui comprenne un peu de quoi il s'agit. En tant que scientifique, j'ai le bagage. Et d'autre part, et là aussi, il s'agit de s'occuper de trouver de l'argent, et puis de... plutôt un comité de surveillance. Le directeur général, c'est vraiment lui le patron, le directeur général. Le président le surveille tous les mois, on a une réunion, il dit ce qu'il va faire, on en discute. Mais ce n'est pas opérationnel. Et donc, il n'est pas indispensable que je connaisse toutes les subtilités des progrès modernes. Mais je comprends le jargon, c'est important.
Oui, ce qui est quand même important. Donc, vous étiez là finalement pour encadrer l'Institut Pasteur.
Oui, et puis les aider à trouver de l'argent. Éventuellement intervenir un peu dans la manière dont est conçue la comptabilité. J'ai trouvé qu'il était indispensable, si on voulait vraiment juger bien notre activité, de distinguer les ressources qui venaient des subventions de l'État, celles qui venaient de nos activités et celles qui venaient du mécénat. Nos activités, c'est les redevances, les brevets, etc. Et alors, c'était pas clair à l'époque, et j'ai obtenu qu'on ait cette distinction qui me paraît importante pour gérer.
Merci Marcel Boiteux de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.